Comment vous allez? Comme vous ne parlez pas très bien français, je vais parler anglais avec vous, d'accord?
Ça va bien?
Ça va? Ah, c'est français ça. Comment alliez-vous cette semaine? Avec les choses dont nous avons parlé la semaine dernière de Philippiens 4, comment allez-vous? Avec le fait de se réjouir, se relaxer, faire des requêtes, recevoir et répéter. Est-ce que vous avez été défié? Vous avez eu des défis là-dedans? Avez-vous été encouragé? Est-ce que vous avez mariné? Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça la semaine dernière, il y a quelques années, pardon, du fait de mariner dans la présence de Dieu, devenir plus tendre, avoir plus de saveur pour Jésus, passer du temps dans sa vérité et avec lui. J'espère que ça te transforme. Est-ce que Dieu t'a montré quelque chose, t'a encouragé avec quelque chose au sujet de Philippiens 4? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour 20 secondes? Allez, rapidement. Nous appelons ça des témoignages pop-corn. Ah, je suis désolée, j'entends rien du tout. Ouais, dommage, j'entends rien. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dave que les gens parlent au micro, comme ça je peux vous les traduire? La personne qui est le plus devant pour le prochain témoignage. Donc il dit, le travail est dur quelquefois encore, mais donnons la reconnaissance à Dieu. J'ai pas envie de dire que c'est magique, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui travaille avec sa paix puissante et sa force. C'est Dieu, c'est réel. Quelqu'un d'autre? Donc je compte sur vous hein, pour que la personne parle au micro. Hein. Personne d'autre encore est devenu plus spirituel cette semaine? Juste mon frère? Bon ben, cher frère, on va prier pour l'assemblée. Hein. Bon, j'entends rien. Quand nous commençons à prendre sérieusement au mot et que nous faisons un pas avec Dieu et que nous tenons fortement, nous nous tenons fortement à Dieu, il va nous tenir dans les tempêtes. J'espère que vous expérimentez cela davantage, plus et plus encore. Pour lui faire confiance. Nous grandissons ensemble là-dedans. Alors, je vais continuer à vous poser des questions. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur ce thème et dans les prochaines semaines, nous aurons plus des thèmes de Noël. Mais aujourd'hui, j'aimerais rajouter une nouvelle chose à la semaine dernière. C'est vraiment un complément important. Donc, j'aimerais que vous tourniez que vous alliez au livre de Luc. Donc, de toute façon, pour Noël, vous êtes dans le livre de Luc. Donc, allez un peu plus loin, 6 chapitres plus loin. Au chapitre 8, pour lire une histoire familière et un compte-rendu vrai de l'histoire de Jésus. Alors que nous allons parler de ça, prions. Et je vous encourage à prendre votre Bible dans la main, comme ceci, qu'elle soit papier ou électronique, et tendez-la à Dieu et demandez-lui, Seigneur, que tu nous parles, que nous l'appliquions à notre cœur et que nous te rencontrions aujourd'hui, toi qui es le Dieu vivant. Nous ne voulons pas juste lire ces mots écrits, mais Saint-Esprit, nous voulons vraiment que ton cœur, que ton onction touche nos cœurs pour que nous ayons une nouvelle rencontre avec toi. C'est notre désir. Tu connais nos cœurs et nous te demandons ça et nous te remercions et nous nous réjouissons déjà. Nous te remercions, nous nous relaxions déjà aujourd'hui. Nous l'avons déjà demandé. Merci maintenant pour ta paix, pour nos cœurs et nos pensées, pour que nous puissions pratiquer, répéter et grandir aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Et le peuple de Dieu disait Amen. Alors maintenant, je crois que nous aurons les mots devant, mais vous pouvez aussi lire depuis votre propre texte. Je vais les lire et je veux que vous suiviez avec moi, parce que je veux le lire un peu plus comme une histoire, pour que ce ne soit pas juste un texte. Parce que rappelez-vous, ça c'est un vrai compte-rendu. Ça a vraiment eu lieu. D'accord. Alors un jour, Jésus a dit à ses disciples, attendez, je prends le texte. Verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas !» Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda. Alors là, c'est intéressant hein, parce qu'il va parler de manière très personnelle pour nommer et utiliser son autorité. « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Mais ils devront, pour toujours, être précipités. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. C'est le premier compte-rendu que nous avons au sujet d'un... Alors, je n'ai pas compris. Je suis désolée. Verset 34, quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux. Vous pouvez croire cela, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils étaient en plus en train de bouleverser leur business. Alors, Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Un passage puissant, n'est-ce pas ? C'est impressionnant. C'est intéressant, quand nous commençons à suivre Jésus, il y aura souvent une routine, et ça a lieu souvent, une série de choix que nous avons à faire, au moins trois choix. Et en général, à la suite, est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que vous avez compris ça en lisant ce passage ? Commençons avec le verset 22. Alors là, on a les disciples. Au milieu d'une frénésie d'activités, plein de choses qui se passent, un super ministère avec tellement de gens. Il y a des gens qui viennent en masse à Jésus pour avoir son aide. Et là, au milieu de tout ça, il dit à ses disciples, il faut qu'on parte. Nous devons aller de l'autre côté. C'est pas différent aujourd'hui. Hein. Nous commençons à grandir avec Dieu, nous recevons sa guérison, Dieu nous enseigne dans le ministère, il fait des choses super pour nous, par nous, nous nous réjouissons. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit nous dit dans notre cœur, « Allons-y. » Quoi ? Mais non, c'est super ici. Et il dit, « Non, allons là-bas. J'ai quelque chose d'autre qu'il faut que nous fassions. Partons, quittons toutes ces bonnes choses. Il y a quelque chose qui nous attend, quelque chose d'autre que nous devons faire. » Et comment tu réagis à cela ? Combien d'entre vous avez connu ça dans votre vie ? Seulement une personne ? D'accord. Ok. Donc ta réponse, c'était quoi ? Attends. Vous savez, on a beaucoup de conseils, hein, des bons conseils pour Dieu. Ah, c'est super que Dieu nous écoute pour que nous puissions l'aider. Heureusement, il est tellement patient avec nous, n'est-ce pas ? Non, Seigneur, les choses se passent bien ici et ça n'a pas de sens, ce que tu dis, Jésus. Nous utilisons nos limites naturelles, nos compréhensions naturelles et nous vraiment devons oindre notre onction. Des fois, notre chair aussi se mêle à tout ça. Des fois, notre chair a vraiment une opinion forte et nous écoutons cette chair. Et souvent, ça a lieu et Jésus dit, viens, allons-y, il y a d'autres choses que nous devons faire, mais nous résistons. Jésus, mais pourquoi ? Il y a plein de choses ici, plein de bonnes choses. Je grandis, j'ai un ministère, je suis dans un live group. Les gens m'aiment bien, je vais bien. tout va bien, la vie est bonne. Le rivage ici, tu as vu, Jésus, il est sécure. On est en sécurité, on n'a pas besoin de se préoccuper d'un bateau, d'une tempête. C'est bien ici. Restons ici. Pourquoi risquer quoi que ce soit en se lançant dans l'inconnu? Les choses peuvent vraiment être dangereuses, vraiment, en y allant. Tu ne l'as pas vu, Jésus? Mais nous sentons que Dieu dit, allez, vas-y. Est-ce que tu ne peux pas imaginer, imagine Jésus, son visage, quand il leur dit, allons-y. Il a dans ses yeux une expression qui dit, regarde, j'ai vraiment quelque chose pour toi. Et je vais te le montrer. Tu ne peux pas imaginer peut-être Jésus qui est comme ça? Alors, il dit, allons-y. Alors la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à nous tourner de là où nous sommes, de tourner le dos au rivage quand il dit « Allons-y ». Seigneur, je prie que dans ce processus, tu nous aides à nous tourner vers toi. Parce que je sais que c'est souvent la partie la plus difficile. Pour que quand tu nous dis « Viens », eh ben nous tournions automatiquement vers toi. Seigneur, fais ça de plus en plus dans nos vies, alors que nous te permettons, Saint-Esprit, de nous remplir de plus en plus, pour que nous soyons juste là où tu veux que nous soyons. Merci. Et le peuple de Dieu dit, alors maintenant regardez le verset 23 à 25. On l'a dit, hein, que la vie est vraiment déjà un challenge sur le rivage, mais suivre Jésus peut être risqué. Quand j'étais en Israël, j'ai eu le privilège d'y être pour quelques semaines, et tu pouvais vraiment comprendre ça. Quand tu commences à voir la position de la rive du fleuve le Jourdain, tu le vois dans une vallée, c'était vraiment une situation géographique qui était propice au vent pour s'y engouffrer. Et tu vois que vraiment les vents s'accélèrent dans cette vallée.
Unbelievably fast and hit that water with such hard impact, throwing that whole sea, the whole lake into great turbulence.
Et donc, si j'ai bien compris, en fait, ces vents qui s'engouffraient dans la vallée du fleuve arrivaient au niveau du lac de Galilée et créaient des tempêtes. Donc, tu peux imaginer que vraiment ceci a lieu régulièrement sur le lac et que les disciples étaient probablement habitués à ceci. Donc leur réaction, c'était probablement dû au fait qu'ils connaissaient, ils savaient que ces tempêtes peuvent être violentes. Alors dites avec moi, je vais avoir des tempêtes. Et il y en a qui peut-être se disent, Seigneur, j'ai eu assez de tempêtes, hein, merci Jésus. Dis à la personne à côté de toi, tu auras des tempêtes. Et n'es-tu pas excité à ce propos? Vous souriez, c'est bien. Ça montre la foi. Ça aura lieu. Mais les amis, rappelez-vous, C'est là où nous apprenons ce que nous ne pouvons pas apprendre d'une autre manière. Nous devons dire avec foi, d'accord, oui. Je suis d'accord. Je ne te supplie pas, Jésus, pour plus de tempêtes, mais ça a lieu, ça se produit. Pouvons-nous croire Jésus ou pas ? Nous pouvons dire, Jésus, je te crois, la vie est belle. Et quand nous sommes en tempête, nous sommes là, Jésus, mais où es-tu ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait ? Est-ce que tu ne te demandes pas pourquoi Jésus dormait ? Alors nous avons une explication naturelle. Je suis sûre que vous la connaissez. Qu'est-ce qui serait l'explication naturelle pour laquelle Jésus dort ? Il est fatigué. C'est une bonne raison, non ? Parce qu'il a été des jours et des jours avec des foules entières. Il était content de le faire, mais il était purement humain aussi. En plus d'être purement divin, il était fatigué, bien sûr. Moi, j'ai dormi, moi, au milieu d'une tempête. Vous savez, quand nous habitons au Tennessee, nous, et quand il y a des orages, des tempêtes, nous avons dormi pendant une tornade. En fait, nous avons dormi et le matin, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une tornade. Et en fait, au lieu d'être dans l'abri de tempête que nous avons, nous étions dans notre maison, mais nous ne savions pas qu'il y avait une tornade. Mais il y a quelque chose d'autre, je suis sûre, qui se produit là. Vous savez, dans Philippiens 4, Paul a écrit, il pratiquait la réjouissance, le fait de se réjouir, de se relaxer. Il parlait souvent à son père. Il déversait son cœur à son père. Jésus faisait cette réception de la paix de Dieu. Jésus pouvait mettre en pratique toutes ces choses. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai. Comme Paul, Jésus faisait pareil. Et même au milieu d'une tempête physique, il était réellement en paix, en repos. La paix de Dieu gardait son cœur et ses pensées. Non seulement il dormait physiquement, mais la paix de Dieu était sur lui. Dis ça avec la personne qui est à côté de toi, que cela en soit ainsi avec toi. Est-ce que tu ne te demandes pas s'il y avait autre chose qui avait lieu ? Et je suis sûre de cela, j'en suis convaincue. Ici, on a les disciples qui pensent négativement, ils sont en panique, ils sont en crainte, ils se disent oh, nous allons mourir. Jésus, Jésus, mais aide-nous, nous allons mourir. Est-ce que tu ne peux pas le voir ? Ne le vois-tu pas ? Ça fait un bon film, ça. Alors, Jésus se réveille calmement, il rabroue les vents et tout se calme. Ce n'est pas une grande affaire pour Jésus. Et vous remarquez ce qu'il dit ? Quels sont les mots qu'il dit ? Est-ce que tu penses qu'il dit « Oh, mais où est ta foi ? Quel est le problème avec toi ? Avec vous ?» Vous voyez ? Quel est son cœur ? Il dit « Les gars, où est votre foi ?» Il les aime fortement, il les aime profondément et il leur dit « Où est votre foi ?» Mais il ne dit pas juste « Où est votre foi en moi ?» Même si ceci est vrai. Mais il dit aussi « Où est ta foi ?» pour pratiquer ce que j'ai essayé de vous enseigner à faire vous-même. C'est là que ça devient personnel. Vous remarquez ? Rappelez-vous quand Jésus a nourri les 5000 dans Matthieu 14 et Luc 9. On ne voit pas cela dans le passage de Matthieu 15 qui parle des 4000 qu'il a nourris. Donc, dans les deux passages dont je vous ai parlé, les disciples ont dit, mais il faut qu'on renvoie les foules, il n'y a rien à manger là, il faut que ces foules aient le temps de trouver à manger avant qu'il fasse nuit et qu'ils soient perdus. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Mais vous les nourrissez. Donnez-leur quelque chose à manger. Il les teste en tant qu'enseignant. Il leur dit, nourrissez-les. Il n'était pas en train d'être difficile envers eux. Il était l'enseignant sage qui les poussait à mettre en pratique. Vous connaissez l'école. Vous apprenez. Ah, c'est super, c'est simple. Et après, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait votre professeur ? Il fait quelque chose de vraiment méchant et il te donne un... il vous dit, asseyez-vous, il vous donne une feuille de papier et vous avez un examen. Et tu dis, mais non, moi j'ai appris plein de choses là, pourquoi maintenant je dois passer un test ? Mais c'est là qu'il sait si tu connais vraiment ta leçon. Nous avons un dicton qui dit, alors peut-être vous avez aussi ça en français, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Jésus est en train d'être montre qu'il est un bon enseignant. Donc, qu'est-ce qu'il espérait que ses disciples fassent ? C'est que les disciples eux-mêmes parlent au vent et aux vagues. Et il veut qu'ils fassent pareil que lui. Alors là, vos visages deviennent vraiment sérieux. Tu veux dire que nous sommes supposés calmer les vents et les vagues ? C'était quand, là, le tsunami qui avait eu lieu en Indonésie, en Asie du Sud-Est ? 2005, 2006, 2007, c'est ça ? Il y avait, vous savez, quelqu'un qui était sur une vague très haute, et il essayait de sortir de cette tempête pour... Et en fait, cet homme qui était sur cette vague et qui voyait une grande vague venir sur lui, il a dit « paix » à la vague pour qu'il a... Et de cette manière, il a vu la vague qui s'est abaissée. Et il a pu aller plus loin pour se protéger de la tempête. Et Dieu avait quelque chose pour cet homme et les gens qui étaient avec lui sur ce bateau. Il avait un projet pour eux. Il savait que Dieu avait encore un plan pour eux. Il était très courageux. Donc, ils ont oublié quelque chose, les disciples, non ? Ils ont oublié qu'ils étaient à l'école. Ils ont oublié qu'ils étaient dans l'école de guérison, d'évangélisation, de résurrection des morts, de l'école des tempêtes, de multiplication de la nourriture et l'école aussi, l'école de être rempli du Saint-Esprit et de montrer Jésus au monde. Ils étaient lents des lents à apprendre. Dis à la personne à côté, tu es à l'école. Et tu auras probablement un grand test prochainement. Mais Dieu est fidèle. Tu peux aussi le dire. Rappelez-vous. C'est très vrai. Nous ne pouvons pas oublier ça. Nous sommes à l'école. Les tempêtes vont venir, mais lui, il veut que nous tenions, que nous agrippions son bâton pour que nous le prenions de lui et que nous apprenions de lui et que nous nous multiplions, qu'il se multiplie sur la planète grâce à par nous, par moi. Levez votre main pour moi, s'il vous plaît. Il veut cette main, cette main, cette main. Marion, où est ta main? Lève ta main. Ne résiste pas. Vous savez, elle est très rebelle. Il veut chaque personne, chaque main. Il veut que chacun d'entre nous. Il veut que chacun d'entre nous soit un vrai disciple qui vive avec tout son cœur pour lui. Il veut faire des choses impressionnantes par nous, dans nos vies, par nous, pour les autres. Il veut manifester qui il est et ce que Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Et chacun d'entre nous est créé pour manifester cela. C'est pour ça que nous sommes créés. L'image de Dieu est en nous, en chacun de nous, et il veut nous remplir de son Saint-Esprit pour accomplir réellement tout cela. Vous savez, nous pouvons aussi... Ne soyez pas remplis de vous-même, mais remplis de lui. C'est ce qu'il veut, c'est ici. C'est ce qui était sur le cœur de Jésus. Tu ne regarderas plus jamais cette histoire de la même manière. Et j'espère cela. J'espère que à chaque moment, je dis à Dieu, oui, Seigneur, utilise-moi. Peu importe, comme tu le veux, j'aurai probablement la crainte de mourir dans ces tempêtes, mais je m'attache à toi. C'est ce qu'il veut. Père, je proclame, je réclame pour mes frères et sœurs que ce que ta promesse dit dans la parole, que ta transformation de puissance. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans les jours à venir, même dans les moments de fortes tempêtes. Mais je te remercie parce que il y aura prochainement de superbes histoires sur comment tu as travaillé dans cette tempête, sur comment tu as calmé la tempête pour quelqu'un qui croit en toi, qui te suit de la manière que tu veux. Et il sera diplômé de l'école de la tempête. Et je réclame ça pour tout le monde et tous ensemble. Et nous prions cela dans ton nom qui calme les tempêtes. Et maintenant, du verset 26 au verset 29.
Imagine what the disciples are thinking now. They've survived this storm just barely.
Maintenant, nous voyons les disciples qui ont survécu à la tempête. Les disciples qui ont survécu grâce à Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons quitté le rivage où les choses sont bien. Nous arrivons sur le lac où il y a une grande tempête. Nous risquons de justesse de mourir. Et Jésus nous nous amène sur l'autre rivage et tu dis, ah, mais là, avec tout ce qu'on a vécu, il y aura quelque chose d'impressionnant, un ministère impressionnant de l'autre côté, là, du lac. Dieu doit avoir un truc impressionnant pour tout ce qu'on a vécu, là, sur cette, dans cette tempête. Et là, ils arrivent sur le rivage et qu'est-ce qu'ils voient ? Un homme. Un seul homme. Et pas juste un homme. Il est complètement fou. Quoi ? Tout ce truc qu'on a traversé pour ça ? Mais Jésus, est-ce que ton GPS, là, il marche bien ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que tu as déjà entendu ça, peut-être à la maison, que on mérite mieux que ça parce qu'on a été fidèle à Dieu et on s'est accroché fortement. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Jésus leur montre une opportunité incroyable. Combien d'entre vous ont vécu des opportunités et sont passés à côté? Peut-être tu aurais dû aller là, parler à telle personne et vous dites, oh non, non, j'y vais pas, c'était pas Dieu, c'était ma pizza d'hier soir qui m'a conduit à ça. Donc du coup, tu t'es abstenu de parler, tu es allé dans un autre endroit que là où tu aurais peut-être dû aller.
Is that right, Dennis, Angela?
Si nous allons à plutôt que à Ayr, ce sont des villes, je crois, en Angleterre. Ne restons pas en arrière parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous devons faire, mais plutôt testons, essayons d'aller là où nous sentons que nous sommes conduits. C'est comme ça que nous devenons de plus en plus sensibles à ce que Dieu nous dit. C'est de sentir ce vers quoi Dieu nous appelle. Et des fois, ces petites choses s'avèrent être vraiment impressionnantes. Regardez, cette personne complètement folle, qu'est-ce qui se passe ? Il est délivré. Et probablement, il était très longtemps affligé par des démons, contrôlé par, par les démons. Et Jésus n'avait même pas besoin de parler à cet homme parce que c'est les démons eux-mêmes qui lui ont parlé. Et imaginez, si nous sommes tellement remplis de la puissance de Dieu que nous sommes reconnus par les puissances des ténèbres. Pierre, imaginez imaginez que notre ombre, comme celle de Pierre, délivre la puissance de Dieu. Imaginez que nous soyons tellement loin de la présence de Dieu que même les gens qui passent qui rentrent ici sont touchés par la présence de Dieu. C'est pas juste naturel, c'est super naturel. Et peut-être ça nous poussera à des conversations avec des gens où ça influencera les gens dans leurs besoins et ils se rendront compte qu'ils ont été touchés par Dieu. Est-ce que ça, c'est fou ? Et Jésus était fou. Et moi, je veux être fou comme Jésus. Et au travers de ça, regardez ce qui se passe. Jésus refuse que cet homme vienne avec lui. Alors c'est comme si Jésus n'était pas très hospitalier là. Parce que Jésus dit, mais va parler aux gens de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme ? Il a fait juste ce que Jésus lui a dit de faire. Il a dit ça à toute la campagne. Des milliers de gens ont entendu Jésus parler parce qu'ils ont entendu dire ce qu'il a fait pour cet homme. Parce que cet homme-là a suivi la volonté de Dieu. Pensez ça. Pensez à ce potentiel qu'il y a quand nous obéissons à Dieu. Dans ces choses insignifiantes que Dieu nous demande de faire. Alors que je vais terminer ce message, je vais vous parler de quelque chose. Il y a un homme dont le nom c'est Edward Kimball, dans les années 40 aux États-Unis. C'était un professeur à l'école du dimanche et il avait une classe d'enfants. Il priait pour chaque jeune garçon. Alors vous savez ce que ça peut être, les jeunes garçons super bien éduqués. Mais il voulait vraiment que chaque enfant, chaque garçon de cette classe de l'école du dimanche suive Jésus. Alors il a essayé d'être très intentionnel avec chacun d'entre eux. Et il y avait un garçon pour qui il avait vraiment un fardeau. Et ce garçon, il était dans la réserve, dans un magasin de chaussures. Il travaillait dans la réserve et donc cet homme, Kimball, est allé dans ce magasin. Et dans la réserve du magasin, il l'a rejoint et il l'a vraiment encouragé à suivre Jésus. Et il l'a fait. Ce jeune homme, vous savez, il s'appelait Moody. Dans son nom de famille, quelqu'un a entendu parler de Dwight Moody ? Il était connu sur toute la planète. C'était un homme talentueux pour Dieu. Alors, à cause de cela, parce que Edward Kimball avait un fardeau pour ce garçon qui était hors de contrôle, il est allé vers ce garçon et il l'a vraiment encouragé à suivre Jésus. Et grâce à cet homme, des milliers de personnes ont entendu parler de Jésus. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin. La semaine prochaine, je vous parlerai de la suite de cette histoire. Ah, vous ne croyez pas que c'est vrai ?
Non.
Donc ici, en fait, c'est là que ça commence. Parce que grâce à Moody, le cœur d'un autre homme a été touché. Wilbur Chapman, qui est devenu un évangéliste, qui a prêché à des milliers de personnes. Et un jour, un joueur de baseball professionnel avait un jour de repos et il a entendu cet homme parler et il s'est converti. Son nom, c'était Billy Sunday. Il a quitté le baseball, il a fait partie de l'équipe de Chapman. Et un jour, Chapman est devenu pasteur d'une église. Billy Sunday, lui, est devenu évangéliste. Et des milliers de personnes aussi étaient touchées. Il était vraiment talentueux pour communiquer des choses de Jésus. Et un autre jeune homme, a connu Jésus grâce à cet homme, Billy Sunday. Donc ce jeune homme s'appelait Mordecai Ham. C'était un savant, un érudit. Et il était connu pour louer un corbillard, vous savez, un corbillard qui transporte les cercueils. Il utilisait ce corbillard pour parler aux gens de Jésus. Il dit, vous ne voulez pas mourir sans connaître Jésus. Donc il utilisait ce corbillard pour parler de Jésus. Quand Mordecai Ham est venu dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, il y avait au lycée un jeune homme qui a entendu parler de Mordecai. Il a dit, mais jamais j'irai à un rassemblement de Mordecai. Et cet homme, ce jeune homme, c'était Billy Frank.
David Peter, Kathy Luella. I don't use your last name.
So, Billy Frank.
He went back another night.
Et puis il a dit, ah, j'y vais pas. Mais il y est quand même allé. Puis il y est retourné. Et à ce moment-là, il a donné sa vie à Jésus. Ça avait du sens pour lui parce qu'il était en train de perdre sa vie. Et alors il a dit, je veux vraiment suivre et faire ce que Dieu a prévu que je fasse. Et en fait, c'était Billy Graham, le super prédicateur, qui est connu à travers le monde entier, partout. Il a prêché à plus de personnes que Paul, même l'apôtre, l'a fait. Donc ça, c'est lui, Billy Graham, quelques années avant qu'il décède. C'était un homme, un gentleman, vraiment oint par Dieu pour que les gens connaissent Jésus de manière simple. Cet homme, sous l'onction du Saint-Esprit, a été capable de prêcher l'Évangile à plus de 2,2 milliards de personnes. 1 million, c'est déjà impressionnant, mais vous rendez compte, 1,000 millions de personnes. Vous savez où ça a commencé tout ça? Edward Kimball, qui arrive sur le rivage et qui se disait, ah, mais t'es sûr, Seigneur, que c'est à cette personne que je dois parler? Et voilà, ben, vous voyez, d'une personne à l'autre, Dieu a travaillé. Et vous savez, pour chaque personne d'entre nous, chacun d'entre nous, Dieu a ce plan pour nous d'aller, de tourner le dos au rivage, nous reposer en lui et aller sur l'autre rivage, même si ça a l'air de rien aux yeux du monde. Et pensez, certains d'entre nous ne sauront jamais, avant d'être au ciel, ce que nos choix ont produit. Et peut-être même que les milliards de personnes et ne seront pas non plus les milliards de personnes qui auront pu être touchées par nos choix avant de nous-mêmes aller au ciel. Lève ta main encore. Lève encore ta main et dis, c'est moi. Si jamais vous ne connaissez pas le français, ça veut dire, c'est moi. Chacun d'entre nous, n'oublie pas cette histoire parce que nous servons un grand Dieu qui aime chaque personne. Il aime Cathy, Trevor, Pascal, chaque personne. C'est un amour énorme. Et il a vraiment un plan pour chaque personne. Tu crois ça? Relève ta main. Oui, je le dis pour chaque personne. Hein. Et toi, tu dis, non, pas moi. Tu veux être rebelle, hein, ce matin. N'oublie pas ça, que ceci soit dans ton cœur et que ça reste dans ton cœur. Et je prie ça, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, pour moi, que nous allons attraper cette vision, qu'elle soit dans nos cœurs et qu'elle reste bien dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit de la manière que tu veux. C'est ce que nous disons. Quoi que tu veuilles faire, alors que nous regardons à notre vie, alors que nous regardons la vie future de Tikos, pour quoi que ce soit, nous te croyons, nous pouvons te faire confiance, alors que nous tournons le dos, que nous croyons, que nous avons confiance et que nous prenions ce que tu veux nous donner. Nous t'aimons, nous te louons, nous te remercions déjà dans la foi pour ce que tu feras. Et nous serons contents, nous serons joyeux d'être ton serviteur, d'être ton disciple. Et les gens de Dieu disent Amen.